La guerre civile en Syrie a éclaté de nouveau la semaine dernière. C'est un conflit qui a la potentialité de changer le Moyen-Orient, l'Europe et le monde entier. Mais c'est aussi un conflit qui risque d'être déroutant, car un grand nombre de factions différentes y participent. Nous allons jeter la lumière sur ce conflit, aujourd'hui sur Trumpet World en français. Dans la trompette de septembre 2012, le rédacteur en chef Gérald Fleury a écrit « En ce moment, la Syrie de Bachar el-Assad est un allié très proche de l'Iran. Or, cette prophétie montre que ces deux nations sont sur le point de se séparer. Cela aura un effet domino sur d'autres nations. Ces évolutions secoueront vraiment le monde et modifieront radicalement le cours de l'histoire. » 12 ans après le début de la guerre civile syrienne, le conflit vient d'être rallumé. Que se passe-t-il en Syrie ? Quel est le lien entre tous ces événements et la prophétie biblique ? Ici, Richard Palmer, rédacteur adjoint de la trompette.fr, et aujourd'hui nous accueillons Mihailo Zekic, un auteur de la trompette et analyste du Proche-Orient. Il va nous aider à comprendre ce qui se passe dans la région. Notre but aujourd'hui, c'est d'approfondir ce sujet. On parle déjà beaucoup des dernières évolutions au Proche-Orient et en Syrie, mais quelle est la situation dans son ensemble ? Que se passe-t-il vraiment ? Commençons par l'acteur principal, le président syrien Bachar el-Assad. Qui est-il ? Quels sont ses antécédents ?
Eh bien, il est président de la Syrie depuis 2000. Et je dis « président » entre guillemets, car il a hérité le pouvoir de son père, Hafez el-Assad, qui était à la tête de la Syrie depuis 1971. Bachar dirige la Syrie à travers le parti Baas, c'est un parti socialiste arabe. Ce parti a débuté en tant que force révolutionnaire socialiste syrienne, avec pour but de chasser du pays l'influence étrangère et de soutenir le nationalisme arabe. Mais à ce stade, le parti n'a plus aucune idéologie, vraiment. Il est devenu un simple instrument de contrôle qui œuvre en faveur du régime Assad. Lorsque Bachar el-Assad a pris le pouvoir, beaucoup de gens espéraient qu'il serait un peu plus modéré que son père, car pendant des décennies, la Syrie a la réputation d'être l'un des principaux sponsors du terrorisme dans le monde, même avant que le djihadisme et l'islamisme ne s'y installent. À ce jour, elle est l'un des rares pays à figurer encore sur la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. Assad a fait ses études au Royaume-Uni pour devenir ophtalmologue. C'est là qu'il a rencontré sa femme. Elle est d'ethnicité syrienne, mais née au Royaume-Uni. Beaucoup de gens espéraient donc qu'il serait modéré une fois au pouvoir. Et à vrai dire, par rapport à son père, je ne pense pas que nous ayons vu autant d'ingérence syrienne dans les pays environnants depuis qu'il est devenu président. Il y a même eu des rumeurs selon lesquelles il aurait conclu un accord de paix avec Israël bien avant la guerre civile, bien sûr. Mais tout cela a pris fin en 2011. Depuis, avec le conflit arabe et la guerre civile syrienne, les événements sont devenus incontrôlables. Il a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. Et même sans cela, la réponse du gouvernement syrien aux rebelles et aux manifestants, aux civils également, a montré qu'il est, dans un certain sens, un dirigeant à la poigne de fer. Et en raison de ses stocks d'armes chimiques et de sa volonté de les utiliser, on peut presque le considérer comme la Corée du Nord du monde arabe. C'est un peu un paria qui n'a pas beaucoup d'amis, même parmi d'autres gouvernements autoritaires. Mais à cause de cela, à cause de sa situation précaire, il a dû s'appuyer sur quelques autres régimes peu recommandables, comme par exemple la Corée du Nord. Des troupes nord-coréennes s'entraînent en Syrie, ainsi que d'autres acteurs que nous évoquerons dans un instant.
D'une certaine manière, c'est l'homme fort typique du Moyen-Orient. Un peu comme Saddam Hussein, le colonel Kadhafi, ce genre d'individu, on a cru qu'il serait une exception à la règle en raison de sa femme, née au Royaume-Uni, qui assistait au London School of Economics. Mais ce n'est pas ce qui a eu lieu. Je pense que l'autre élément absolument essentiel à savoir de son passé est qu'il est alaouite. C'est une branche de l'islam chiite. C'est une simplification, il est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui est un jour pour simplifier un peu les choses. Le fait d'être chiite lui donne un lien avec l'Iran, qui est le grand soutien des chiites au Moyen-Orient. Il faut préciser qu'il existe d'importantes différences religieuses entre les alaouites et l'islam chiite iranien. Mais ce lien reste tout de même important. Et cela signifie aussi que tout ne se résume pas à un parti politique. Comme vous l'avez dit, ce parti politique n'est pas pertinent. Il ne s'agit pas d'idéologie politique. Mais il est, disons, le chef d'une tribu, le chef d'une faction au sein de la Syrie.
En fait, dans ce contexte, il est nécessaire de mentionner que son parti politique lui donne une présence dans le monde islamique et aussi dans le monde en dehors de la Syrie. De nombreux États arabes, depuis leur indépendance, ont vu leurs frontières dessinées sur une carte par les puissances coloniales, en l'occurrence par les Français. Il n'y a donc pas vraiment de cohésion entre les factions au sein de la population. Les Alaouites, comme vous l'avez mentionné, sont une variation de l'islam chiite, bien que la plupart des musulmans ne les considèrent même plus comme des musulmans. Par exemple, ils boivent de l'alcool, ce qui est normalement très tabou dans l'islam. L'Iran, pour sa part, a tenté de s'allier à la Syrie. À l'origine, ils se sont alliés parce qu'ils étaient tous deux contre l'Irak de Saddam Hussein. Dans cette situation, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, pour ainsi dire. Au début, le fait qu'Assad est chiite permettait de justifier cette démarche. Et l'Iran considère les Alaouites comme acceptables, du moins dans la sphère d'influence chiite, même s'ils sont en désaccord sur de nombreuses doctrines différentes. Mais il est important de comprendre que, bien qu'Assad et son régime soutiennent le terrorisme depuis des décennies et entretiennent des liens avec l'Iran, ils ne sont pas eux-mêmes islamistes. Comme je l'ai mentionné, leur idéologie était à l'origine ancrée dans le socialisme. Cela se voit aujourd'hui. Par exemple, les femmes syriennes ne portent généralement pas de voile. La femme d'Assad ne porte pas de voile lorsqu'elle apparaît à la télévision. Lorsque M. Assad rend visite à ses alliés, comme les Iraniens ou le Hezbollah, il est généralement le seul à porter un costume et une cravate, alors que tous les autres autour de lui sont vêtus d'une robe noire ou d'un turban. Son gouvernement est donc très, très laïque, même s'il doit s'allier aux fanatiques religieux.
C'est plutôt comme Saddam Hussein ou le colonel Kadhafi, pas comme l'ayatollah Khomeini. Et ce que vous venez de dire sur le fait que la Syrie n'est pas un État cohésif, c'est un point critique. Le Liban en est l'exemple classique. Il y a 100 ans, la Grande-Bretagne et la France ont tracé des lignes sur la carte. Et ces lignes sur la carte ne tiennent pas compte du fait qu'il existe depuis longtemps des communautés qui n'ont pas le sentiment de constituer un seul groupe, une seule nation. En Europe, par exemple, on a des nations comme la France où tout le monde parle français et tous sont d'accord pour dire qu'ils appartiennent à la nation française. Il y a beaucoup de désaccords dans la politique française en ce moment, mais ils sont tous d'accord sur ce point et ils y attachent tous de l'importance, même s'il y a des désaccords entre les idéologies. Socialistes, conservateurs, diverses régions, et ainsi de suite. Malgré cela, ils sont tous d'accord pour dire qu'ils sont tous français et que cela compte. Et pour cette raison, ils sont prêts à faire des sacrifices pour le bien commun. Oui, ils ont des différends, des désaccords, mais ce sentiment d'unité permet d'imposer des limites. Par contre, au Liban, ce n'est pas le cas. Là-bas, on attache beaucoup plus d'importance au fait d'être chrétien ou musulman, et aux diverses tribus, au lieu de se considérer tous Libanais. Et le fait d'être appelés des Libanais, c'est presque quelque chose qui leur est imposé par des étrangers. Alors cela n'est pas vraiment une identité pour eux. La Bible parle de la Syrie, et si vous lisez la Bible, vous pouvez avoir l'impression qu'il s'agit d'un État ancien avec de solides fondements ancrés dans l'histoire, à l'instar de l'Égypte, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres pays du Proche et du Moyen-Orient où l'on a tracé des lignes sur la carte pour englober diverses tribus. Mais la seule chose que ces tribus ont en commun, c'est le fait d'être gouvernées par le même homme fort. Outre cela, ces tribus n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est ce qu'on a vu en Irak, pays fort divisé. Ils ont été obligés à s'unir sous l'égide d'un homme fort, Saddam Hussein, qui dominait le pays. C'était aussi le cas en Libye, où tous ces groupes différents ont été contraints de s'unir par un homme fort. En Syrie, les Alaouites sont une minorité. Ils sont plus ou moins la force dominante du pays, car ils occupent tous les postes les plus élevés. Mais tous les autres, non seulement ils n'aiment pas les Alaouites, mais ils ne sont même pas très enthousiastes à l'idée de faire partie de la Syrie. Il y a beaucoup d'autres identités qui sont beaucoup plus importantes pour eux que l'identité syrienne. Et encore une fois, le fait qu'ils soient appelés Syriens, c'est quelque chose qui leur a été imposé de l'extérieur. Nous parlerons plus de l'État islamique, car ils ont joué un rôle dans la guerre civile syrienne. En fait, l'État islamique avait pour fondement idéologique le rejet actif de l'État syrien. Et il est essentiel de s'en souvenir pour comprendre pourquoi les gens n'aiment pas Assad. C'est un dictateur issu d'une tribu rivale, d'une communauté rivale. Mais cela explique aussi pourquoi ces diverses tribus ne sont pas du tout d'accord entre elles. Elles ne se battent pas nécessairement pour une Syrie libre, ni même pour une vision unifiée de la Syrie, ni même pour la Syrie du tout. Elles se battent pour leurs intérêts et ne se soucient pas vraiment de l'idée de la Syrie telle que nous la connaissons.
En fait, le nom même de la Syrie est une construction sociale. Il remonte à l'Empire Séleucide, l'un des successeurs de l'Empire d'Alexandre le Grand, qui contrôlait tout, de la Méditerranée à la frontière de l'Inde, y compris ce que l'on appelait la Syrie. Ce nom a fini par s'appliquer à l'ensemble du pays. Les Séleucides ont fini par perdre tout leur territoire, à l'exception d'un petit bout de Méditerranée. Mais le nom a demeuré, même lors de l'arrivée des Romains. Ainsi, lorsque nous parlons de la Syrie, il s'agit en fait de la Syrie, et les Assyriens ne se trouvent même plus dans le territoire que nous appelons la Syrie. Donc, c'est en quelque sorte un faux nom pour la région.
En effet, les historiens anciens qui ne parlent pas de la Syrie, mais d'Aram, ou d'Aram-Damas, ou d'Aram-Syrie. Il n'y a pas de Syrie ancienne comme il y a une Égypte ancienne, qui a une longue histoire en tant que communauté politique. Alors, il y a Bachar el-Assad, c'est un dictateur diabolique pour simplifier les choses à l'extrême. Il règne sur un pays composé d'une pléthore de factions différentes qui ne s'aiment pas et qui sont contraintes de s'unir au sein d'un seul État. Il est au pouvoir depuis 2000, son père l'ayant précédé. La situation semblait auparavant assez stable, même si beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Pourquoi donc son régime s'est-il effondré ?
Eh bien, l'année critique, comme je l'ai mentionné plus tôt, a été 2011. En Tunisie, un vendeur de fruits s'est immolé par le feu pour protester contre l'homme fort. L'affaire est devenue virale sur Internet. Beaucoup de gens dans de nombreux pays arabes ont vu cela et se sont dit « Eh bien, nous avons exactement les mêmes sentiments de cet homme-là. Nous sommes sous la férule d'un despote que nous n'aimons pas. Pourquoi devons-nous supporter cela ?» Cela a donné lieu à des manifestations et à des mouvements révolutionnaires un peu partout, en Libye, en Égypte, dans les États du Golfe Persique et en Syrie, c'est-à-dire dans beaucoup de ces pays qui avaient des dictateurs au pouvoir depuis longtemps. Dans beaucoup de ces pays, comme l'Égypte, le gouvernement s'est effondré assez rapidement. La Libye aussi, après des pressions extérieures, exercées par des pays comme les États-Unis. En Syrie, Assad a décidé de sévir autant que possible et il a fait appel à l'armée pour massacrer un grand nombre de manifestants. Et beaucoup de ces gens se sont réorganisés et ont dit « Eh bien, s'il ne veut pas céder, s'il ne veut pas nous donner notre liberté, nous allons prendre notre liberté par la force. » C'est alors que la Syrie est devenue incontrôlable.
Le printemps arabe éclate. Cela donne aux groupes rebelles la chose la plus dangereuse du point de vue d'Assad, c'est-à-dire l'espoir. Ils voient tous ces autres pays renverser leurs hommes forts. Ils pensent à faire la même chose, à devenir la prochaine révolution. C'est ce qui se passe. Et il y a une rébellion de tous ces groupes et factions. Alors, qui sont les principaux groupes qui veulent se débarrasser d'Assad ?
Eh bien, l'un des plus importants à l'époque et aujourd'hui est ce que l'on appelait le Front al-Nusra. Aujourd'hui, ils sont connus sous le nom de Hayat Tahrir al-Sham. C'est ainsi que je les appellerai à partir de maintenant. Ils sont plus ou moins affiliés au Front al-Nusra, ou du moins c'était le cas au début.
Pour en revenir à la situation générale, je dirais qu'une des factions qui veut se débarrasser d'Assad, ce sont les musulmans sunnites. Dans le terme musulmans sunnites, il y a évidemment une grande gamme de variations. L'islam, en général, est divisé entre musulmans chiites et musulmans sunnites sur la question de savoir qui serait le successeur de Mahomet. Et beaucoup d'autres choses vont de pair avec cela, comme leur perspective sur la succession et sur la manière même de gouverner. Il y a bien sûr d'autres choses encore. Mais voilà leur principal désaccord. De nombreux sunnites n'apprécient donc pas d'être gouvernés par des alaouites. Et comme vous l'avez dit, ils ne considèrent même pas les alaouites comme des musulmans. Les sunnites les plus motivés seront les plus extrémistes. Et ces extrémistes auront tendance à former des groupes terroristes. Et bien sûr, nous examinons aujourd'hui toute une série de factions différentes de groupes terroristes, car beaucoup d'entre eux se sépareront les uns des autres. Mais les extrémistes sunnites sont un bloc qui veut se débarrasser d'Assad. Puis il y a Al-Qaïda et ses ramifications. Il y avait Al-Qaïda en Irak, qui est devenu Al-Qaïda al-Sham, qui est ensuite devenu l'État islamique. Ces groupes se sont séparés d'Al-Qaïda, mais ce sont des groupes terroristes sunnites qui voulaient se débarrasser d'Assad. L'État islamique a pris une ampleur considérable. Il a attiré l'attention en étant le groupe le plus cruel et violent dans la guerre civile syrienne, du moins en termes d'attaques terroristes. Bachar el-Assad a également perpétré beaucoup d'actes choquants et cruels, notamment en gazant les civils. Mais ces gens-là relèvent largement du passé. Il y en a beaucoup dans les prisons syriennes et ils ne sont donc pas un acteur majeur de cette dernière vague de rébellion. Le monde entier a été en quelque sorte scandalisé par l'État islamique. Il est également devenu une excuse commode pour les puissances extérieures de s'impliquer. Nous reviendrons sur les puissances extérieures dans une minute. Ils appartiennent donc pour la plupart à l'histoire. Nous considérons ce nouveau groupe, le Hayat Tahrir al-Sham, comme la dernière ramification d'Al-Qaïda. Ce groupe est conscient que le fait d'avoir appartenu à Al-Qaïda n'est pas un facteur qui œuvre en leur faveur lorsqu'il s'agit de recevoir du soutien de l'étranger. Les dirigeants ont pris publiquement leur distance avec Al-Qaïda. Mais bien sûr, beaucoup de gens se demandent si c'est vrai ou s'il s'agit en fait d'un mensonge.
En fait, je dirais qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un nouveau groupe. Ils étaient en fait actifs à la même époque et probablement pendant qu'Assad essayait d'en finir avec l'État islamique. Et encore une fois, ils représentaient probablement la menace la plus sérieuse pour son régime. Al-Nusra ou Hayat Tahrir al-Sham ont fait pression depuis le nord également. Comme vous l'avez dit, l'État islamique et Hayat Tahrir al-Sham sous deux groupes sunnites qui rejettent l'État Khemet, l'État syrien, mais ils ont deux approches toujours très très différentes en ce qui concerne leur vision de l'avenir. Pour l'État islamique, ils considéraient tous ceux qui n'appartenaient pas à leur groupe comme des infidèles. Ils ne se rangent du côté de personne. Ils rejettent toute opposition de qui que ce soit. Et cela s'est avéré être leur perte. Je crois que Hayat Tahrir al-Sham en a tiré une leçon. Si nous voulons renverser Assad, si nous voulons faire quoi que ce soit, nous devons d'abord modérer notre position, au moins en apparence. Cela permettrait de bénéficier d'un soutien des autres groupes. Et il semble que c'est ce qu'ils ont fait et que cette démarche ait été couronnée de succès. Il y a eu un cessez-le-feu depuis 2020 dans la guerre civile. C'est la raison pour laquelle les cartes de la guerre n'ont pas vraiment changé ces dernières années. Le groupe a le contrôle de la province d'Idlib, y compris la ville d'Idlib, qui se trouve au nord-ouest, pas tout à fait sur la côte méditerranéenne, mais juste au sud de la Turquie, juste au sud d'Antakya, la ville qui a été frappée par un tremblement de terre l'année dernière. Ils n'ont pas vraiment eu beaucoup d'influence en dehors de la ville de Syrie, mais ils étaient bien armés et ils ont pu garder cette poche pendant un certain temps. Et pendant très longtemps, Assad n'a pas saisi trop d'occasions de se débarrasser d'eux. Avant cette attaque, il y a eu quelques escarmouches entre les forces d'Assad et ce groupe pour disputer le contrôle de quelques positions mineures. Il y a eu également des écoliers qui ont été tués aux mains d'Assad, ce qui, selon certains, a conduit aux récentes évolutions. Alors, dans l'ensemble, ce groupe a pu tenir.
Les musulmans sunnites, avec leurs diverses factions, ne sont donc qu'un groupe qui se bat pour se débarrasser d'Assad. Y a-t-il d'autres ?
Eh bien, le principal, surtout en ce qui concerne le soutien américain, ce sont les Kurdes. On entend beaucoup de noms pour eux, par exemple l'armée démocratique syrienne ou Rojava, mais nous les appellerons encore une fois les Kurdes pour simplifier. Ils ne sont pas arabes, ils sont musulmans sunnites, mais ils s'identifient avant tout comme des Kurdes. Leur langue est en fait plus proche du persan que de l'arabe. Ce n'est même pas une langue sémitique. Et c'est ce qui a été, je suppose, le point d'ignition récurrent dans cette partie du Proche-Orient depuis une centaine d'années. Petite leçon d'histoire. Remontons à la Première Guerre mondiale et les Turcs. L'Empire ottoman contrôlait toute la région. Les Britanniques savaient que pour vaincre les Turcs, ils devaient se lier d'amitié avec certains des peuples qu'ils dominaient. Et ils ont promis au peuple kurde un État.
Le Kurdistan, non ?
C'est ça, le Kurdistan. Et cela ne s'est jamais produit.
Et Winston Churchill était très contrarié que cela n'ait pas été réalisé.
Au lieu de cela, ils ont découpé le territoire kurde en trois zones qui traversent la Grâce, la Syrie et l'Irak. Certains sont même allés en Turquie, tandis que d'autres se trouvent aujourd'hui en Iran.
Et si vous regardez la carte, vous pouvez y placer le Kurdistan. L'ironie, c'est que nous parlons de fausses constructions politiques, comme la Syrie qui n'est pas un vrai peuple, dans le sens où personne ne veut vraiment être syrien. On pourrait très facilement placer Kurdistan sur la carte, car la population qui souhaite en fait vivre dans un pays appelé Kurdistan, la population est prête à se sacrifier pour le Kurdistan. Et ce qui plus est, ce serait un pays très favorable aux États-Unis au beau milieu du Proche-Orient.
Et aussi, ce serait un pays très favorable à Israël. Les Israéliens peuvent bien visiter le Kurdistan irakien aujourd'hui parce que les Kurdes contrôlent les frontières. S'ils essayaient de visiter l'Irak proprement dit, cela n'arriverait jamais, mais les Kurdes les laissent entrer.
les Kurdes finissent toujours par être trahis. Ils sont toujours prêts à aider les États-Unis, car ces derniers les ont aussi beaucoup aidés. Ils les ont, en quelque sorte, sauvés de Saddam Hussein. Il y a aussi eu de nombreuses fois où les États-Unis sont restés les bras croisés, mais je lisais il y a quelques années un article d'un journaliste qui parlait de son voyage au Kurdistan. Il racontait avoir trouvé un McDo dans le nord de l'Irak. Il s'est dit que c'est bizarre, car il n'y a pas de McDo en Irak. Chaque McDo qu'il voit est un peu différent des autres, ce qui est bien étrange car le but de McDo, c'est de tout standardiser. Mais il y a de petites différences entre tous les McDo. Bref, il se rend compte enfin qu'il s'agit d'un faux McDo. Les Kurdes aiment tellement l'Amérique, ils veulent tellement ressembler à l'Amérique, qu'ils construisent leur propre McDo pour pouvoir ressembler à l'Amérique. Cela vous donne une bonne idée de ces gens. Et tout comme il y a un large éventail d'opinions au sein des musulmans sunnites, il y a un éventail d'opinions au sein des Kurdes. Certains sont même plus extrémistes que d'autres, et ainsi de suite. Mais en général, je pense que cela vous donne une bonne image de ce que sont ces gens. Et ils souhaitent ardemment avoir leur propre État. Ils aimeraient bien avoir leur propre État. Mais ce qui complique vraiment les choses, c'est que si les puissances extérieures doivent intervenir pour créer Kurdistan en Syrie, les Kurdes réclameraient également une partie de l'Irak. Et ce qui plus est, ils réclameraient une partie de la Turquie également. Ils voudront peut-être qu'une partie de l'Iran fasse également partie de ce nouveau Kurdistan. Cela signifie que tous les pays qui comptent une minorité kurde s'opposent avec véhémence à la création d'un État kurde et ont tendance à s'opposer aux Kurdes en général. C'est en grande partie la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'État kurde après le renversement de Saddam Hussein. L'Amérique avait besoin de l'aide de la Turquie pour s'impliquer en Irak. Si Washington créait un État kurde, il perdrait l'aide de la Turquie. Il y a toujours un calcul à faire, c'est pourquoi les Kurdes finissent toujours par être trahis. Alors, on a parlé des musulmans sunnites et maintenant des Kurdes.
Et pour préciser, ils sont aussi dans la zone nord-ouest. Ils contrôlent une grande partie du territoire et pour la plupart, ils sont satisfaits du statu quo parce qu'Assad les laisse tranquilles. Assad n'a pas pu faire grand-chose à leur sujet, car ils ont été probablement l'armée la plus organisée de la région après Assad lui-même.
Et il y a également le Peshmerga, nom qui signifie « ceux qui cherchent la mort », mais aussi divers autres groupes militants, groupes rebelles, certains en Turquie, d'autres en Syrie, qui font tous partie de ce parapluie kurde. Alors, y a-t-il d'autres factions internes qu'il vaut la peine de connaître ?
Il y a un petit groupe de Syriens, qui sont alignés sur les États-Unis et soutenus par Washington. Ils sont dans l'extrémité sud de la Syrie. C'est probablement le groupe le plus favorable à la démocratie, mais aussi celui qui a le moins de pouvoir. Il n'existe que parce que les États-Unis occupent une partie du sud de la Syrie. Mais cela donne à Washington une excuse pour y maintenir sa présence. À mon avis, c'est un facteur stabilisant, car si l'Amérique n'était pas là, il y aurait beaucoup plus de massacres. Le dernier groupe que j'aimerais mentionner est l'armée nationale syrienne, qui n'est pas l'armée du gouvernement syrien à Damas, mais qui prétend être l'opposition légitime à Assad, mais qui, dans la pratique, est en fait un amalgame de milices qui n'ont qu'une seule chose en commun. Elles sont toutes parrainées par la Turquie et se trouvent à la frontière nord entre la Syrie et la Turquie. Il y a donc des recoupements en ce qui concerne le territoire qu'elles contrôlent et celui détenu par Ayad Tahrir al-Sham. Et comme le montrent les évolutions de la semaine dernière, il y a aussi des recoupements entre les deux groupes, dans le sens où ils n'aiment pas Assad et sont tous les deux sunnites.
Effectivement, ce sont tous les deux des musulmans sunnites, mais ils ont des parrains différents.
Eh bien, encore une fois, c'est un peu un fatras, ils ne sont pas forcément tous des islamistes. Je pense qu'ils sont probablement similaires à ce que nous voyons autrefois dans le monde arabe, à savoir des hommes forts et des généraux voyous comme Khalifa Haftar en Libye ou d'autres de ce genre. En gros, ces soldats suivent les hommes qui ont le pouvoir et les armes, qui veulent être le nouveau Bachar el-Assad.
Et pourquoi se battent-ils ? Se battent-ils comme les Kurdes pour un État kurde indépendant ? C'est ce qu'ils voudraient. Certains des sunnites les plus extrémistes pourraient se battre, à l'instar de l'État islamique, pour fonder un califat islamique. Certains, au sein de ce bloc, considéreraient ce combat comme faisant partie d'un djihad mondial. Vous avez mentionné une minorité qui se bat pour établir une Syrie libre et démocratique. Si ces groupes soutenus par la Turquie parvenaient à leur fin, à quoi ressemblerait la Syrie ?
Elle ne serait probablement pas très différente de ce que fait Assad actuellement. Mais il y aurait un autre groupe à la tête du pays, pas les Alaouites, et ce serait probablement un gouvernement beaucoup moins sévère. à la différence de celui d'Assad, qui était prêt à utiliser des armes chimiques sur son propre peuple. Un nouveau gouvernement impliquerait le Hezbollah et certains des groupes iraniens. Et c'est surtout pour cela que la Turquie s'intéresse à eux. Ils sont probablement les plus grands opposants à l'indépendance kurde. C'est pourquoi chaque fois qu'il se passe quelque chose entre la Turquie et les Kurdes, ils ont recours à ces groupes pour s'en prendre aux Kurdes.
Je ne veux pas trop m'étendre sur les puissances extérieures, mais si ces gens prenaient le pouvoir, la Syrie deviendrait-elle un état fantoche turc, ou est-ce que cela exagère leurs liens avec la Turquie ?
En fait, ils n'ont pas d'autres soutiens étrangers. J'ai mes doutes que la communauté internationale serait prompte à commencer à parrainer la Syrie, même si la guerre prenait fin. Et de son côté, l'armée nationale syrienne connaîtrait la main qui la nourrit. On pourrait donc très bien dire qu'il s'agit d'un état fantoche turc. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours à la Libye, mais en Libye, le gouvernement internationalement reconnu est à toute fin utile une marionnette turque, et la Turquie voudrait probablement qu'il se passe quelque chose de similaire en Syrie.
Je pense qu'il est utile de revenir sur la Libye parce qu'il s'agit d'un cas très similaire où l'on a un pays composé de différents peuples avec des objectifs et des idées très différents. La Libye est divisée entre l'Est et l'Ouest, maintenue par un homme fort. Si l'on tue l'homme fort, tout s'écroule. Ou dans le cas de la Syrie, l'homme fort s'affaiblit. Mais je pense que vous pouvez déjà comprendre pourquoi tout cela devient déroutant. Car les Kurdes et les groupes soutenus par la Turquie sont à bien des égards des alliés. Par exemple, ils s'opposent à Assad. Ils sont donc du même côté. Mais d'un autre côté, lorsqu'il s'agit de l'indépendance kurde et un éventuel État kurde, ils sont de véritables ennemis. Et cela se multiplie par 10 lorsqu'on commence à faire intervenir les puissances étrangères.
Et aussi, le fait que tous ces groupes cherchent à se présenter comme le gouvernement légitime de la Syrie n'aide pas non plus. Ils s'appellent tous l'armée nationale syrienne ou les forces démocratiques syriennes, et ainsi de suite. Il est facile de se perdre dans ces noms. Mais comme vous l'avez dit, en matière de puissance internationale, la Syrie occupe évidemment un emplacement très important sur le plan stratégique. Elle relie le Proche-Orient à la Turquie et à l'Europe. Elle possède des ports sur la mer Méditerranée, elle est reliée à l'Euphrate, qui coule vers l'Irak. Puis il y a eu l'État islamique, qui s'est étendu très rapidement, et ne voulait s'aligner sur personne. Alors de nombreux pays ont eu une excuse pour pénétrer en Syrie.
Commençons par Assad. Qui veut le maintenir au pouvoir ?
Eh bien, l'un des plus importants est l'Iran. Encore une fois, sur le plan idéologique, Téhéran n'a pas beaucoup de choses en commun avec Damas. Le gouvernement syrien est laïque, et d'habitude l'Iran tâche à renverser ce type de gouvernement. Mais il ne faut pas oublier les décennies pendant lesquelles Saddam Hussein était au pouvoir. Cela a rendu l'Iran et la Syrie furieux tous deux. Ils se sont opposés alors à un ennemi commun. C'est ainsi qu'ils se sont rapprochés. Depuis, lorsque l'État islamique a vraiment commencé à s'étendre, la Syrie s'est rendue compte qu'elle n'avait pas grand monde pour venir en aide. Elle a donc fait appel à Téhéran pour venir la libérer. C'est pourquoi le corps des gardiens de la révolution islamique est très présent en Iran. C'est pourquoi les responsables syriens et iraniens font constamment des allers-retours pour se rendre visite. C'est pourquoi l'Iran est l'un des rares pays qui accepte encore de faire des affaires en Syrie.
La guerre civile syrienne a donc fini par renforcer l'influence de l'Iran sur le terrain en Syrie, parce qu'Assad ne pouvait pas vraiment voler de ses propres ailes. Il avait vraiment besoin de ses soutiens iraniens.
Exactement. Et une fois que vous avez l'Iran de votre côté, cela signifie que vous avez tous les mandataires de l'Iran de votre côté également. Et dans le cas de la Syrie, cela signifie qu'il faut intégrer le Hezbollah et le Liban. Il est évident que le Hezbollah a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps et que son ennemi numéro 1 est Israël. Mais si l'on remonte 10 ans en arrière, on s'aperçoit que le Hezbollah s'est davantage battu en Syrie au nom des forces d'Assad et qu'il s'est même opposé à Israël. Et il se battait même contre Israël. Et selon beaucoup dans l'Est, ce serait l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens pensaient qu'Assad resterait au pouvoir, ce qui renforce encore la division entre sunnites et chiites au sein de la Syrie. Un autre acteur important, et sans doute le plus important soutien de la Syrie, est la Russie.
Et c'est en fait un peu surprenant. Les liens syro-russes ont un peu de sens. Mais pourquoi la Russie entre-t-elle en jeu ?
Il ne faut pas oublier qu'Assad, du moins sur le papier, dirige un gouvernement socialiste et a présidé une révolution socialiste pendant la guerre froide. Et qui était le grand défenseur du socialisme pendant la guerre froide ? Eh bien l'Union soviétique.
Ils ont tissé toutes sortes de liens avec divers groupes au Moyen-Orient, en particulier les groupes panarabes. Alors oui, c'est logique d'un point de vue historique.
La seule base navale de la Russie en Méditerranée, Tartu, fait l'objet d'une grande couverture médiatique. Maintenant, on se demande ce qu'on fera avec elle. Cette base remonte à l'époque soviétique. Il s'agit donc d'une relation de longue date entre la Syrie et la Russie. Depuis lors, le communisme s'est effondré, mais la Russie a gardé des liens avec ce pays. Elle est amicale envers Cuba, par exemple. Dans le cas de la Syrie, il est intéressant de noter qu'avant la guerre civile, plus de 2 millions de chrétiens vivaient en Syrie, appartenant pour la plupart à ce que l'on appelle le patriarcat d'Antioche. Il s'agit en réalité de l'église orthodoxe syrienne qui entretient des liens étroits avec l'église orthodoxe russe. Il existe donc un lien religieux entre la Syrie et la Russie. Et Assad, lui, sait que s'il fait quelque chose de bien pour les chrétiens orthodoxes, cela fera plaisir à la Russie. Comme les Alaouites, ils ont été une minorité très favorisée en Syrie, au point que le patriarcat syrien est plus ou moins un porte-parole du gouvernement, comme l'est le patriarche russe dans la société russe.
D'accord, j'ignorais qu'il y avait un lien religieux entre la Syrie et la Russie. Et cette base navale est cruciale, car globalement, la situation de la marine russe est vraiment mauvaise. Moscou veut désespérément obtenir un port en eau chaude. Elle a des ports sur la mer Noire, elle s'est aussi emparée de la Crimée. Mais pour accéder à n'importe quel autre endroit du monde, la marine russe doit passer par le Bosphore, par une série de portes maritimes sous contrôle turc et que la Turquie peut très facilement fermer à la navigation en cas d'urgence. Et la Turquie fait partie de l'OTAN. La Russie dispose également d'une flotte dans la mer Baltique, mais c'est très éloigné de la Méditerranée. Et aussi l'Allemagne, le Danemark et la Suède sont des membres de l'OTAN et peuvent fermer les détroits.
Et aussi, il gèle en hiver. La Russie a besoin de brise-glace pour ouvrir le port de Saint-Pétersbourg chaque hiver.
Et puis, il y a Mourmansk, où le problème 10 fois plus grave, car tout est gelé en hiver. C'est un problème récurrent pour la Russie. Je pense que l'exemple classique est la guerre russo-japonaise vers 1905, où la Russie entre en guerre contre le Japon. Elle doit faire naviguer sa marine depuis Mourmansk tout autour du monde. On leur interdit de passer par le canal de Suez. Alors ils doivent y faire le tour de l'Afrique. Lorsqu'ils arrivent enfin près du Japon, ils sont coulés presque immédiatement parce qu'ils sont épuisés par le long voyage. Donc, la Russie a désespérément besoin de bases navales. Disposer d'une base navale en Méditerranée est très important pour la Russie. Par le passé, elle a donc été prête à se battre avec acharnement pour conserver cette base. Je pense qu'elle a également apprécié d'être un acteur puissant au Moyen-Orient. Et je pense que c'est un autre élément qui a renforcé le prestige et la réputation de la Russie dans le monde en soutenant Assad.
Moscou obtient également beaucoup de matières premières, notamment en établissant des liens avec certains de ses seigneurs de la guerre. C'est pourquoi la Russie est présente en Afrique, par exemple, car elle peut obtenir ainsi de l'or et du pétrole. La Syrie n'est pas forcément très riche en matières premières, mais elle est effectivement une porte d'entrée vers d'autres régions.
C'est tout à fait vrai. Ce sont donc les deux principaux soutiens d'Assad, l'Iran avec le Hezbollah et la Russie. Cela explique pourquoi le conflit a explosé, à savoir que ces deux soutiens subissent une forte pression et sont très distraits en ce moment. L'Iran se concentre principalement sur la lutte contre Israël. Le Hezbollah a été l'un des principaux outils iraniens pour soutenir Assad. Le Hezbollah est maintenant mis à genoux, voire décapité par Israël, ce qui limite vraiment l'aide qu'ils peuvent apporter en Syrie. Quant à la Russie, elle a son attention accaparée par la guerre en Ukraine, et nous pourrions certainement consacrer tout un épisode à essayer de déterminer s'ils gagnent ou s'ils perdent. Mais le fait indéniable, c'est que cette guerre consomme d'énormes quantités de ressources russes. Ils n'ont pas les mêmes ressources qu'il y a 8 à 10 ans pour soutenir Assad en Syrie.
Le jour même où cette offensive de Hayat Tahrir al-Sham contre Alep a commencé, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur. Pour leur part, les médias israéliens ont cité des sources rebelles anonymes en Syrie, disant qu'ils étaient très heureux d'Israël. Iran, lui, a essayé un peu d'aider Assad. Les corps des gardiens de la révolution islamique intervient maintenant, ainsi que certaines milices iraniennes en Irak. Le Hezbollah a cependant déclaré qu'il restera sur la touche, et il s'agit là d'une évolution qui a quelque peu changé la donne. Le fait que le Hezbollah refuse de s'y impliquer est très préoccupant pour la Russie. Je crois que la Russie est assiégée Alep il y a 4 ans ou quelque chose comme ça, juste pour la ramener sous la coupe d'Assad, mais cette fois-ci les rebelles ont mis seulement 3 jours environ pour prendre la ville. Le général autrefois chargé de prendre Alep Sergueï Sourovikine, est surnommé le général Armageddon pour ce qu'il a fait dans cette ville. Il était l'un des hommes impliqués dans la mutinerie de Wagner, alors il est pratiquement hors jeu en ce moment.
C'est un bon point. La Russie a perdu beaucoup de gens expérimentés, que ce soit pour cause de mutinerie ou parce que l'Ukraine les a éliminés. Donc, une grande partie du haut commandement qui était impliqué la dernière fois n'est plus là.
Exactement. Beaucoup d'entre eux ont été envoyés en Ukraine. Et l'autre chose qui ressort de tous ces conflits, c'est que, une fois encore, l'ennemi de mes ennemis est mon ami. Selon le Kiev Post, il y a même des rumeurs selon lesquelles l'Ukraine aurait formé les terroristes de Hayat Tahrir al-Sham, en plus de leur formation sous Al-Qaïda. C'est d'ailleurs ce que l'on constate dans la manière dont ils combattent. Ils ont très souvent eu recours aux drones pour attaquer Alep, y compris des drones suicides. Où avons-nous déjà vu ce genre de choses se produire? Eh bien, pendant ces trois dernières années, le grand champ de bataille a été en Ukraine. Alors, je crois que ces rumeurs sont au moins en partie fondées.
Et cela nous amène aux autres soutiens de ce groupe. La Turquie est devenue une grande puissance régionale en matière de drones. L'Azerbaïdjan a remporté un succès retentissant dans la guerre qu'il opposait à l'Arménie, en grande partie grâce à l'utilisation de drones qu'il a obtenus en grande partie auprès de la Turquie. L'Ukraine a acheté des drones turcs. Aujourd'hui, la Turquie, je suppose, aide probablement certaines de ses puissances. Donc, en termes de puissances extérieures qui veulent se débarrasser d'Assad, la Turquie serait en haut de la liste.
La Turquie serait l'acteur numéro 1 sur cette liste, et pas nécessairement parce qu'elle veut que la démocratie se répande. Le président Erdogan a ses propres intérêts en jeu, mais en ce qui concerne les forces anti-Assad, qui ont la capacité de faire le plus de dégâts et d'obtenir le plus de résultats, la Turquie serait certainement, à ce stade, sur la première place. C'est ce que l'on peut voir dans le déroulement des événements. Les rebelles se sont emparés de la totalité d'Alep et se déplacent maintenant plus au sud vers le cœur de la Syrie, ce qui explique pourquoi la Syrie et certains de ses alliés se démènent pour limiter les dégâts. Mais le Hayat Tahrir al-Sham n'est pas le seul à avoir capturé ce territoire. Il y avait aussi des membres de l'armée nationale syrienne. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles la Turquie voulait les amener à cesser les combats, peut-être pour ne pas ébranler le statu quo. Mais il a également été rapporté que cette offensive était planifiée depuis plus d'un an, et il est impossible que la Turquie n'en ait pas entendu parler. Et le fait même qu'elle ait pu s'assurer que l'affaire reste discrète montre qu'elle a apporté son soutien tacite à l'armée nationale, mais aussi au Hayat Tahrir al-Sham, qui, une fois encore, a une frontière avec la Turquie et des troupes turques à proximité, et qui, une fois encore, utilise les mêmes tactiques que la Turquie. Et bien sûr, la Turquie a également beaucoup de ses propres soldats dans des bases militaires dans la région. Pourquoi font-ils cela? Encore une fois, le lien avec les Kurdes est un élément important du puzzle. Mais Assad n'aime pas les Kurdes non plus. Pourquoi donc la Turquie s'en prend-elle à Assad? Il est intéressant de noter que depuis quelques années, la Turquie tente de normaliser ses relations avec Assad. Elle disait que les Russes pouvaient être les médiateurs, et ainsi de suite. Et Assad a toujours rejeté cela catégoriquement. Il veut que la Turquie retire ses troupes avant d'entamer des pourparlers. Et maintenant, la Turquie refuse, elle décide en fait de combattre la Syrie et il n'y a rien que Damas peut faire à ce sujet. Certains analystes se demandent s'il ne s'agit pas là d'une méthode du président Erdogan pour serrer la vis, pour exercer une pression sur Assad, pour montrer que la Turquie peut vraiment faire du mal à la Syrie et qu'Assad ferait mieux d'entamer dès maintenant des pourparlers. C'est peut-être le cas, ou peut-être que certains des groupes rebelles commencent à s'irriter contre la normalisation et se sentent trahis. Peut-être que la Turquie, de son côté, essaie de limiter les dégâts, mais quoi qu'il en soit, la Turquie est probablement l'acteur le plus influent dans l'offensive qui se déroule en Syrie à l'heure actuelle.
J'aimerais en dire un peu plus sur l'objectif de la Turquie, peut-être dans une minute. Avant cela, j'aimerais aussi aborder les Arabes du Golfe, donc l'Organisation des États arabes, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Car en général, beaucoup de ces groupes veulent également se débarrasser d'Assad. Ce que je veux dire, c'est que par le passé, ils se sont rangés du côté des rebelles. En fait, ils semblent ne pas se soucier trop d'Assad. Mais leur ennemi, c'est l'Iran. Alors ils ont soutenu les rebelles et réclamé le départ d'Assad il y a 10 ans. Mais depuis, ils se sont aussi montrés disposés à soutenir Assad, pourvu qu'il rompe avec l'Iran.
Et ils ont manifestement beaucoup d'argent à donner à Assad pour le convaincre de le faire. Nous avons vu beaucoup d'exemples similaires de cela, Par exemple, la réadmission de la Syrie à la Ligue arabe, dont l'Iran, bien sûr, ne fait pas partie parce qu'il n'est pas arabe. Or, les États du Golfe sont généralement restés discrets à ce sujet.
Du point de vue de la Turquie, il me semble qu'il y a un certain nombre d'issues possibles. Il pourrait simplement s'emparer unilatéralement d'une partie du territoire près de la frontière turque, et c'est en quelque sorte où ils en étaient avant. Ils n'avaient pas officiellement redessiné les frontières sur la carte, mais ils contrôlaient de nombreuses zones frontalières, ce qui leur a été très utile pour combattre les Kurdes et leur a permis d'accroître leur influence en Syrie. C'est un bon résultat pour eux. Transformer la Syrie en un État fantoche et faire en sorte que leurs mandataires renversent le régime d'Assad, ça aussi c'est un bon résultat pour eux. Ou bien, même amener Bachar el-Assad à rompre avec l'Iran et à devenir le nouveau mandataire turc au Proche-Orient, c'est un bon résultat pour eux.
Et il y a encore une nuance à aborder. Lorsque la guerre civile syrienne en était à son plus haut point, il y a évidemment eu un énorme afflux de réfugiés vers l'Europe, et c'est cela qui est devenu célèbre. Mais en fait, c'est la Turquie qui en a accueilli le plus grand nombre.
Ils ont été payés par l'Europe pour les accueillir.
Et leur nombre était de presque 5 millions.
En effet, la question des réfugiés est énorme. Et nous nous pencherons aussi sur les intérêts de l'Europe dans cette émission. Mais la Turquie a certainement des intérêts similaires.
La Turquie renvoie déjà certains des réfugiés, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Pas 5 millions d'entre eux, mais on peut voir clairement ce qu'ils pensent.
Tout à fait. D'accord. Abordons maintenant ce sujet-là. Les États-Unis ont bien sûr cherché à éliminer Bachar el-Assad parce qu'il a gazé son propre peuple. C'est l'accusation qui est souvent lancée et qui est ensuite qualifiée de propagande par la Russie, par les porte-parole financés par la Russie. À quel point sommes-nous sûrs qu'Assad a utilisé des gaz toxiques et des armes de destruction massive contre son propre peuple?
Eh bien, il y a toutes ces vidéos qui circulent sur Internet sur lesquelles on voit des gens filmer leur propre famille en train de subir des spasmes en raison d'une attaque au gaz neurotoxique. Assad, quant à lui, a affirmé s'être débarrassé de toutes ses armes chimiques immédiatement après. Évidemment, il n'y a pas eu d'enquête sur le terrain pour dévoiler tous les détails, mais c'est assez bien documenté.
D'accord. Disons qu'il a bien sûr utilisé du gaz neurotoxique. L'Amérique s'oppose à Assad pour des raisons idéologiques. C'est un dictateur, alors que Washington défend la démocratie. Il empoisonne son propre peuple. Souvent, il y a aussi un manque d'intérêt qui entre en jeu. Les questions d'idéologie ne suffisent pas pour motiver les États-Unis à envoyer des troupes au sol. Ils n'aiment pas Assad. Mais cela n'est pas assez pour s'engager dans une guerre. Il y a aussi le désir de réduire l'influence iranienne. On ne veut pas que les terroristes iraniens aient accès à la mer Méditerranée. La Syrie est un atout majeur pour l'Iran. Il y a aussi la concurrence géopolitique avec la Russie. Il faut éliminer un allié russe. Si Washington parvient à fermer cette base navale russe, la Russie subira un revers majeur. Y a-t-il d'autres raisons pour que les États-Unis s'impliquent dans le conflit?
Ça dépend de l'administration au pouvoir, et le fait qu'on passe d'une administration démocrate à une administration républicaine pourrait changer beaucoup de choses. Il y a aussi les Kurdes, comme vous l'avez mentionné.
C'est vrai, les Kurdes sont des alliés des États-Unis.
Les États-Unis ont des bases là-bas, mais il s'agit plus de soutien et de logistique que de combat proprement dit, par exemple avec le groupe sur le flanc sud de la Syrie. Mais aussi, il faut garder à l'esprit que les États-Unis cherchent à répandre la démocratie et à stabiliser le pays. Les États-Unis ont été un peu une force stabilisatrice. Et le fait que nous n'ayons pas vu beaucoup de combats sur le flanc sud, où se trouvent les troupes soutenues par les États-Unis, ou même au cœur du territoire kurde, où il y a plus de troupes américaines, en dit long sur la situation. Et que ce soit les démocrates ou les républicains qui soient aux commandes, en ignorant pendant un instant les volontés de certains politiciens, la plupart des gens, où qu'ils se trouvent sur l'échiquier politique, souhaitent simplement voir la situation se stabiliser. Ils ne veulent pas, cependant, qu'il apparaisse un nouvel État islamique, qui exige un nouvel envoi de troupes au sol, plus de bottes sur le terrain, plus de garçons qui quittent la Californie et le Kansas pour être avalés par un autre conflit au Proche-Orient.
Oui, je pense que c'est vrai et je suis content que vous ayez soulevé ce point. Je pense que c'est un autre point important, surtout dans ce monde après le 11 septembre. Cela s'atténue un peu maintenant, mais les États-Unis ont eu pour but de s'assurer qu'il n'y avait aucun espace non gouverné sur la carte qui pourrait permettre à des groupes terroristes de s'implanter. Dans un pays comme le Mali, qui connaît une sorte de guerre civile, des groupes terroristes peuvent surgir et profiter de la situation. Il se comprend alors pourquoi les États-Unis ne veulent pas laisser les terroristes s'établir en Syrie, et c'est ce qui complique les choses. L'une des justifications pour essayer de stabiliser la Syrie est de s'assurer qu'il n'y ait pas de terroristes là-bas. L'Amérique est généralement d'accord pour dire qu'il faut stabiliser la Syrie en se débarrassant d'Assad. Or, les autres acteurs qui veulent se débarrasser d'Assad sont parfois des organisations terroristes. C'est là qu'apparaît cette dynamique étrange. Des terroristes sunnites liés à Al-Qaïda ont tenté de prendre le contrôle de l'Irak il y a une dizaine d'années, et l'Amérique a fini par se battre aux côtés de l'Iran pour tenter de se débarrasser de ces terroristes sunnites. Ensuite, en Syrie, l'Amérique se retrouve du même côté que les terroristes sunnites et même du même côté qu'Al-Qaïda qui se bat contre l'Iran. Je pense que cela rend la situation véritablement difficile, car il est facile de dire qu'Assad est mauvais et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Washington justifie alors ce qu'elle fait en finançant les rebelles, bien qu'à contre-cœur, afin de se débarrasser d'Assad. Le problème, c'est que nous avons déjà vu ce genre de choses. Lorsque la Russie a envahi l'Afghanistan, l'Amérique a dit « Bon, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. La Russie est l'empire du mal. Nous allons financer ces islamistes sur le terrain. » Ces islamistes sont devenus les talibans et Al-Qaïda et ont utilisé l'expérience, l'argent et même certaines des armes qu'ils avaient reçues des États-Unis pour ensuite s'opposer aux Américains. La situation est donc compliquée pour l'Amérique. C'est aussi un tout petit groupe. Ils sont en quelque sorte presque sans importance. Leur seul atout, c'est le fait que Washington se sente à l'aise pour leur donner de l'argent. Et elle a l'impression que tout l'argent qu'elle leur donne ne fera qu'aider Al-Qaïda et ses alliés, du moins en aidant ses alliés en influençant la situation sur le terrain en leur faveur. C'est donc la situation difficile dans laquelle se trouve l'Amérique.
En effet, et il y a un autre pays occidental que nous devons absolument aborder, et il s'agit bien sûr d'Israël. Leur principal objectif est d'empêcher l'Iran d'utiliser la Syrie pour financer le Hezbollah. Et bien sûr, le Hezbollah est actuellement décimé. Donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, Israël est plus qu'heureux de voir l'Iran s'enliser dans d'autres problèmes. Mais il est intéressant de noter qu'Israël coopère un peu avec les États du Golfe et la Russie. Ces dernières années, Israël a effectué de nombreuses frappes sur les installations iraniennes en Syrie, mais a laissé les installations russes tranquilles. Israël a laissé l'armée syrienne tranquille si elle gardait ses distances des Iraniens. Israël téléphone même Moscou pour dire lorsqu'une attaque est imminente contre une base iranienne, laissant ainsi aux Russes le temps de s'y éloigner. Tant que l'Iran quitte la région, Israël ne se soucie pas trop de l'issue du conflit. Al-Qaïda a dit des choses positives sur Israël. À mon avis, personne ne croit qu'Al-Qaïda s'intéresse vraiment à aider Israël. Il est donc très probable qu'Al-Qaïda patiente pour voir sur quel côté il faut se ranger, tout comme il le fait au Soudan. Et ils soutiendront celui qui semble positionné pour gagner. En Syrie, cela pourrait être le Hayat Tahrir al-Sham. Mais si l'on considère les dégâts qu'Israël a déjà infligés au Hezbollah, qui ont un impact indirect sur les derniers combats, on peut être sûr qu'Israël demeure un facteur important dans la région sur lequel tous les yeux sont rivés.
C'est la dynamique que nous avons vue au début de l'année, où ces bases iraniennes sont attaquées en permanence. Assad semble se rendre compte que l'Iran est un handicap plutôt qu'un appui. Israël poursuit ses frappes sur les bases iraniennes et Bachar el-Assad risque d'être entraîné dans la guerre avec Israël. Selon certaines informations, il aurait dit à son frère, commandant en chef de l'armée, de ne pas abriter le Hezbollah, ne pas prendre parti, ne pas transporter des militants ou des équipements pour eux. La Syrie a voulu rester totalement à l'écart de cette affaire. Il a fait des gestes de bonne volonté aux États arabes du Golfe et il semblait qu'il allait essayer de rompre avec l'Iran de son propre gré. Par ailleurs, la guerre civile syrienne a eu des conséquences économiques considérables. Des villes entières ont été rasées. Il faut donc beaucoup d'argent pour les reconstruire. L'Iran a de l'argent pour les groupes terroristes. Mais lorsqu'il s'agit de reconstruire les villes syriennes et l'économie syrienne, ce n'est pas une grande priorité pour Téhéran, d'autant plus que la Syrie risque de se retourner contre lui et s'allier à quelqu'un d'autre.
Téhéran ne veut même pas investir dans leur propre économie, alors pourquoi investirait-elle dans ses voisins ?
Exactement. Et puis il y a la Russie. Elle a été coupée du reste du monde par les sanctions américaines, ou du moins c'était le but. Les sanctions ne se sont pas révélées aussi dévastatrices que l'on croyait au début. Mais il est quand même vrai que la Russie n'a pas d'argent pour rebâtir d'autres pays. Les puissances qui ont de l'argent à verser, vers lesquelles Assad pourrait se tourner, sont les États arabes du Golfe, qui disposent de l'argent du pétrole. Mais à ce stade, je pense que nous devons absolument mentionner une autre puissance occidentale qui est essentielle, à savoir l'Europe et plus particulièrement l'Allemagne. Il serait avantageux à Berlin d'investir dans l'économie syrienne et aussi, fait important, elle dispose de l'argent pour le faire. Vous avez déjà mentionné l'afflux de réfugiés vers la Turquie et il y en a également beaucoup en Europe et en Allemagne. Le pays ne veut pas subir une nouvelle vague de réfugiés provenant d'une guerre. Mais l'Allemagne aimerait aussi renvoyer les réfugiés syriens et possiblement aider à reconstruire les villes et l'économie de la Syrie déchirée par la guerre. Ainsi, il y aurait aussi un afflux de réfugiés qui ont passé les 5 dernières années à vivre en Allemagne et qui sont donc beaucoup plus riches que ceux qui sont restés en Syrie. Alors, ils pourraient ramener tout un tas d'argent avec eux en Syrie. Il y a beaucoup de raisons pour que l'Europe s'implique. C'est pourquoi, au début de l'année, il semblait même à l'époque qu'Assad pourrait rompre avec l'Iran, peut-être conserver le lien avec la Russie et essayer de courtiser les Arabes du Golfe et l'Europe.
En effet, c'est peut-être un peu trop spéculatif, mais si ces gens ont vécu en Allemagne depuis longtemps, ils auront des contacts dans le pays. Beaucoup d'entre eux parlent probablement encore l'allemand. D'une certaine manière, ces liens ne disparaissent pas lorsqu'ils rentrent chez eux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on disait que chaque famille sicilienne avait au moins une personne qui avait immigré à New York. De fait, lorsque les Américains sont arrivés, les Siciliens les ont accueillis comme des membres de leur propre famille, ce qui a beaucoup facilité l'invasion de l'Italie par les Alliés. Quelle que soit l'issue de ce conflit, le Proche-Orient restera une région très importante du monde, le Levant, l'endroit particulier où se trouve la Syrie, restera important. Et si la Syrie dispose tout d'un coup des centaines de milliers de personnes qui parlent allemand, qui ont des relations d'affaires en Allemagne, cela donnera à l'Allemagne un grand avantage en matière d'influence diplomatique.
Et je pense que c'est là que notre analyse se différencie de celle d'un grand nombre d'autres sources d'actualité. Je pense que la simple discussion de ce qui se passe en Syrie, avec ces analyses, sont faciles à retrouver chez les grands médias, ou même chez les analystes indépendants sur YouTube. Et peut-être que certains font un meilleur travail que nous en matière d'analyser la situation dans le détail. Or, il est certain que les autres ne parleront pas de l'Allemagne de cette manière. Et c'est parce que notre prévision, selon laquelle l'Allemagne se mêlera de cette région, s'appuie sur la prophétie biblique. Encore une fois, il y a des raisons logiques pour s'attendre à une telle évolution. Et on les voit dans les actualités. Mais il y a aussi des prophéties bien précises qui annoncent que l'Allemagne jouera un rôle clé en Syrie. Aussi récemment que cet été, M. Fleury a publié un article intitulé « L'Iran perd la Syrie au profit de l'Allemagne ». Il écrit, je cite, « L'Iran est sur le point de perdre son influence sur la Syrie et, par conséquent, sur toute la région. Cela changera radicalement ce qui se passe autour de Jérusalem ». Il a également écrit, « De nombreuses nations arabes s'opposent à l'Iran, mais la Syrie est restée un allié de ce dernier. Grâce à Damas, l'Iran bénéficie d'un accès crucial à la mer Méditerranée, par le biais d'une base qui permet d'approvisionner ses mandataires terroristes et d'attaquer Israël. Pendant des années, la Syrie a joué un rôle crucial dans la position dominante de l'Iran au Proche-Orient. Pourtant, la prophétie biblique indique que, grâce à la Syrie, l'Allemagne est sur le point de prendre le contrôle du Moyen-Orient au lieu de l'Iran. C'est un point de vue unique qui provient directement de la prophétie biblique. L'une des choses que je trouve absolument fascinante, c'est que, même dans cet article, M. Fleury fait le lien entre la crise syrienne et la politique intérieure de l'Allemagne. Il parle de Karl Theodor zu Guttenberg, cet homme que nous surveillons car il pourrait finir par devenir l'homme fort de l'Allemagne. Et c'est un homme qui s'est montré très favorable à une intervention militaire allemande en Syrie. Il parle même de stabiliser la région, d'ouvrir la porte à l'expulsion de réfugiés vers la Syrie. Donc, nous voyons une nouvelle fois la Bible prendre vie dans les infos du soir. Et cela se produit au moment même où l'Allemagne traverse cette crise politique et ses élections. Il est très probable que cela ne soit pas une coïncidence et que ce qui se passe en Syrie soit en rapport avec ce qui se passera en Allemagne sur le plan politique. Maintenant, j'aimerais analyser la prophétie biblique aussi simplement que nous l'avons fait pour ce qui se passe en Syrie. Dans un instant, nous passerons à une explication de pourquoi nous nous attendons à ce que la Syrie se range enfin du côté de l'Allemagne. Mais avant de le faire, Mihailo, je vous invite à nous mettre au courant de ce qui se passe et de toute autre chose que vous pensez nécessaire d'aborder. Que ce soit dans les actualités ou dans l'histoire, pour vraiment comprendre ce qui se passe dans cette région cruciale du monde.
D'accord. Un fait à noter, c'est que la Syrie et la Russie ont été prises au dépourvu dès le premier jour de l'attaque. Il y a eu une unité d'élite russe qui a été tuée par les rebelles. Depuis la prise d'Alep, les rebelles ont pris d'assaut le consulat iranien. Vous pouvez voir sur certaines photos qu'ils jettent par terre des photos de l'ayatollah Khomeini. L'armée syrienne, quant à elle, a essayé de se regrouper. L'armée de l'air russe a mené des campagnes de bombardement à Idlib. Mais le Hayat Tahrir al-Cham a pris l'avantage et s'est déplacé vers le sud en passant par un réseau d'autoroutes qui relie presque toutes les grandes villes de Syrie le long d'un axe. On ne sait pas où ils s'arrêteront. Ils n'ont pas encore atteint les principaux centres de population. Mais s'ils gardent leur élan, ils ont devant eux une route toute tracée qui les mènera jusqu'à Damas. C'est donc très sérieux pour Bachar el-Assad. Ils se dirigent également vers la mer Méditerranée, probablement d'abord vers Latakié, qui, avant la guerre civile, comptait environ 400 000 ou 500 000 habitants. Mais c'est aussi, bien sûr, là que se trouve la base navale de la Russie. Comme nous l'avons dit, c'est un emplacement de haute valeur pour la Russie. Si les rebelles parviennent à aller plus loin, il se pourrait bien que la Russie et la Syrie commencent à se désespérer et à amplifier un peu leurs réponses. Quoi qu'il en soit, lorsque les premiers rapports ont commencé à être publiés, des sources turques ont déclaré aux médias qu'il s'agissait d'une opération limitée pour venger quelques torts d'Assad après le cessez-le-feu, ou quelque chose de ce genre. Mais il semble que les rebelles tentent de faire le grand saut, et le chef des rebelles, je ne me souviens plus de son nom, a déclaré il y a longtemps qu'Alep était la clé pour avancer jusqu'à Damas, et il semble que ce soit la stratégie qu'il applique actuellement.
Alors, nous pourrions assister à des changements spectaculaires. Merci d'avoir nous aidé à comprendre cette situation, Mihailo. Nous allons faire une petite pause et après, je vous présenterai quelques prophéties bibliques qui portent sur la Syrie. Ne nous quittez pas. Bienvenue de nouveau sur Trumpet World. Dans cette émission, nous avons essayé de faire la lumière sur la situation globale en Syrie et nous avons mentionné que l'accent que nous mettons sur l'Allemagne est unique. Voici ce que le rédacteur en chef de la Trompette, Gérald Fleury, a déclaré sur la clé de David au début de l'année.
L'Iran est en train de perdre la Syrie au profit de l'Allemagne. C'est en train de se produire en ce moment même. Téhéran perd la Syrie, et elle perd surtout le soutien de la population syrienne. Ce sera un véritable choc pour le monde, vous pouvez en être sûr.
Pourquoi souligner l'Allemagne ? Eh bien, j'espère vous aider à comprendre quelques prophéties bibliques de base qui nous éclairent. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucune analyse qui ressemble à la nôtre. Car en observant ce qui se passe en Allemagne et en Syrie, vous pouvez voir ce livre prendre vie. Une prophétie clé pour comprendre l'Iran et ce qui se passe en Allemagne et au Proche-Orient est le chapitre 11 du livre de Daniel. Ce chapitre fait partie d'une très longue prophétie. Dans cette prophétie, il est même question d'Alexandre le Grand. La Bible a prophétisé de lui bien avant sa vie. Il avait été prophétisé qu'il mourrait jeune, et aussi ce qui se passerait après lui. Mais dans cette partie de Daniel 11, nous pouvons remarquer, au verset 40, qu'il est si aux questions du temps de la fin. Donc, bien qu'il s'agisse en partie des prophéties sur l'histoire ancienne, on peut constater que la prophétie s'est belle et bien réalisée. Vous pouvez lire ce passage et le comparer au livre d'histoire. Vous pouvez même analyser le livre de Daniel lui-même et voir pourquoi il n'a pas pu être écrit après Alexandre le Grand. Vous pouvez prouver que le livre de Daniel existait bien avant Alexandre. Ce passage vous permet de prouver la véracité de votre Bible. Ce passage comporte également une prophétie pour le temps de la fin. Cela est confirmé au verset 1 du chapitre 12, où nous lisons « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Il s'agit donc du temps de la fin, de la crise à la fin. Le chapitre 11 de Daniel nous présente deux grandes puissances, le roi du Nord et le roi du Sud. Ils nous sont présentés peu après la mort d'Alexandre le Grand. Ce passage a prophétisé qu'Alexandre le Grand mourrait jeune, que son royaume serait divisé en quatre et que l'un d'entre eux deviendrait le roi du Nord. Il s'agit du royaume séleucide qui se situait dans la région de la Syrie actuelle. Il y a donc eu un royaume successeur d'Alexandre le Grand qui a gouverné une grande partie du Proche-Orient à partir de la Syrie. La Bible l'appelle le roi du Septentrion. Quant au roi du Sud, appelé le roi du Midi, il s'agit du royaume ptolémaïque, en Égypte, qui dominait également une grande partie de la région. Alors, le roi du Nord dominait le Proche-Orient depuis la Syrie, tandis que le roi du Sud le dominait depuis l'Égypte. Mais dans le verset 40, on lit « au temps de la fin », bien que nous parlions encore du roi du Nord et du roi du Sud. Quelle est donc leur identité moderne? Car le roi du royaume, Séleucide en Syrie, est mort il y a longtemps. La Bible nous donne les indices dont nous avons besoin pour répondre à cette question. L'un des principaux indices est qu'en 65 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée le Grand a conquis le royaume Séleucide de Syrie et le roi du Nord. À partir de ce moment-là, l'Empire romain joue le rôle de roi du Nord. D'autres passages du livre de Daniel et de l'Apocalypse prophétisent que l'Empire romain allait continuer d'exister d'une façon particulière, à savoir qu'il tomberait et qu'il serait ensuite ressuscité. Et bien sûr, nous voyons actuellement une résurrection de l'Empire romain, aussi connu sous le nom de Saint-Empire romain. Par exemple, il y a eu Napoléon qui s'est présenté comme un nouveau César et qui a voulu diriger un nouvel empire romain. C'est donc cette résurrection européenne du Saint-Empire romain qui est le roi du Nord. C'est ce que nous pouvons également constater en considérant le chapitre 11 de Daniel à la lumière d'autres prophéties bibliques. C'est la clé dont parlait M. Armstrong. La Bible est comme un puzzle. Le livre d'Ésaïe dit que « nous devons rechercher un peu ici, un peu là, si nous voulons obtenir la vue d'ensemble ». Cela signifie que nous devons consulter un certain nombre d'autres passages. Par exemple, dans Daniel chapitre 11, au verset 41, nous lisons qu'il entrera dans le pays de la gloire. Donc, ce roi du Nord conquiert Israël. Le verset 45 dit qu'il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Ce roi du Nord conquiert donc l'État juif d'Israël au Proche-Orient et il conquiert Jérusalem. Nous pouvons examiner d'autres passages dans les Écritures qui nous disent qui fera une telle chose. Et ces autres passages identifient cette puissance comme étant la Syrie. Et nous avons expliqué ailleurs que la Syrie correspond à l'Allemagne moderne. Dans le livre de l'Apocalypse, cet empire est également connu sous le nom de la puissance de la bête. C'est une résurrection du Saint-Empire romain. Nous pouvons donc comparer ces autres passages et ainsi avoir plus de clarté. On peut également noter comment le roi du Nord entre dans le plus beau des pays. Le mot hébreu signifie « une entrée pacifique », pas une conquête. Il entre donc pacifiquement. Or, c'est une fausse paix. Il entre sous de faux prétextes et prend ensuite le pouvoir. Et vous pouvez voir cela dans Daniel 11. Vous pouvez également voir que plus haut dans le chapitre, il est question d'un leader des temps modernes, préfiguré par l'ancien, qui accède au pouvoir par la trahison. Le chapitre 8 de Daniel en parle également. Cela décrit un leader qui profite de la paix pour exterminer un grand nombre de personnes. D'autres passages, par exemple dans le livre d'Ézéchiel, décrivent comment la Syrie fait la même chose. La Syrie a autrefois conquis les tribus du nord d'Israël, mais Ézéchiel écrivait bien après ces faits. Il prophétise donc une autre conquête. Nous pouvons donc comparer tous ces passages et dire, en effet, tous ces passages correspondent l'un à l'autre. Le roi du Nord fait désigne alors la puissance européenne, dirigée par l'Allemagne, cette puissance bestiale, connue sous le nom d'Assyrie dans la prophétie biblique. Eh bien, la question suivante, c'est de connaître l'identité du roi du Sud. Le passage lui-même nous permet d'éliminer de nombreuses possibilités. L'Égypte est mentionnée séparément, donc ce n'est pas l'Égypte, de même pour la Libye et l'Éthiopie. Cela élimine un très grand nombre de possibilités. La Bible contient de nombreuses prophéties sur Édom. Un livre entier, le livre d'Abdias, parle d'Édom, qui correspond à la Turquie moderne, et ces prophéties sont très différentes de celles qui visent le roi du Sud. Il ne peut donc pas s'agir de la Turquie. Nous pouvons donc éliminer assez facilement un grand nombre de ces autres puissances. Si nous nous limitons aux affaires du Proche-Orient en rapport avec Israël, il ne reste pas d'alternative, sauf l'islam radical dirigé par l'Iran. Et vous voyez que dans ce passage, le conflit tourne autour de ce « plus beau des pays », c'est-à-dire la Judée, et aussi Jérusalem. Qui d'autre se trouve au Proche ou au Moyen-Orient, au sud du roi du Nord, ayant pour but de conquérir Jérusalem? Donc, nous pouvons très facilement déduire qu'il s'agit en fait de l'Iran et de l'islam radical. Voilà donc les principales puissances impliquées dans ce conflit. Quel est le rôle de la Syrie? Pour cela, il nous faut aller à un autre passage, le psaume 83. Le psaume 83 a été qualifié d'alliance mystérieuse. Il prophétise qu'un groupe précis de nations attaquera Israël. Pourtant, l'histoire ne nous transmet aucune trace de cette alliance précisée dans le psaume. De quoi s'agit-il? Eh bien, l'histoire ne nous transmet rien, car il s'agit en fait d'une prophétie. Cette alliance n'a jamais existé dans l'histoire, et vous pouvez même voir dans le passage d'autres indices qu'il s'agit d'une prophétie. Le verset 4, par exemple, parle de ceux qui forment des plans pleins de ruses et qui délibèrent contre ceux qui Dieu protège. Il y a donc un air de secret dans tout cela. Il y a un conseil plein de ruses, que l'on pourrait traduire par le mot « conspiration ». C'est la même chose dont il est question lorsque le roi du Nord de Daniel, chapitre 11, entre en Terre Sainte sous de faux prétextes. Il y a des conseils de ruses. C'est une alliance qui entre sous de faux prétextes. Et cela est lié à toute une série d'autres passages. Avançons jusqu'à la fin de ce passage. Il est également question d'Assyrie. Au verset 9, nous pouvons lire, je cite, « L'Assyrie aussi se joint à eux. » Cela inclut donc le roi du Nord, l'Allemagne, qui est l'Assyrie dans le langage prophétique. Elle aussi rejoint cette alliance. Cela correspond donc parfaitement à ce qui est prophétisé dans le chapitre 11 du livre de Daniel. Et vous pouvez même regarder quels pays qui sont énumérés ici, dans le psaume 83, en tant qu'alliés du roi du Nord, et ensuite constater qu'aucun d'entre eux ne sont mentionnés dans Daniel 11 comme étant alliés au roi du Sud. Il s'agit donc clairement de deux alliances distinctes qui s'affronteront. Daniel chapitre 11 nous dit que lorsque le roi du Nord élimine le roi du Sud, il élimine aussi l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie. Il élimine aussi l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie. L'implication est donc que l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie sont alliés au roi du Sud. Aucune de ces nations n'est mentionnée dans le psaume 83. Tout cela correspond parfaitement. Il y a l'alliance du psaume 83 dirigée par Berlin, qui a ses partenaires régionaux au Proche et au Moyen-Orient, et ils affrontent le roi du Sud, l'islam radical dirigé par l'Iran, ainsi que ses pays alliés. Ces deux prophéties s'accordent donc parfaitement. Le verset 6 dit « Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi ». C'est un peu une conspiration. Ces nations travaillent ensemble secrètement pour éliminer Israël au Proche-Orient. Et il n'y a pas qu'Israël, mais pour l'instant je vais me pencher sur le rapport de la Syrie avec tout cela. Le verset 7 commence à dresser la liste de ses alliés, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens. Il y a donc beaucoup de groupes différents que nous pourrions examiner. J'ai déjà mentionné Édom, c'est-à-dire la Turquie. Les Ismaélites sont les Arabes. Eux-mêmes affirment être les descendants d'Ismaël, un fils d'Abraham. Il y a donc les Turcs, les Arabes. C'est une coalition anti-iranienne que nous voyons déjà au Moyen-Orient. Ensuite, on peut lire les Agaréniens. Le nom Agarénien signifie simplement les descendants d'Agar, qui était la mère d'Ismaël, l'autre femme d'Abraham, à laquelle ce dernier a eu recours lorsque Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, on dirait qu'Agar, la mère d'Ismaël, est la même chose que les Agaréniens. Non, les Agaréniens sont les descendants d'Ismaël. Eh bien, les descendants de Agar sont aussi des descendants d'Ismaël. Nous allons jeter un coup d'œil au premier livre de Chroniques, chapitre 5, versets 9 et 10. Dans ce passage, au verset 10, on peut lire ce qui suit. « Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens. » Ils combattaient donc les Agaréniens, les descendants d'Agar. Il s'agit d'un peuple qui vivait dans le nord-est d'Israël, dans la région du plateau du Golan, selon le nom moderne, et autour de l'est de la mer de Galilée. Ces Agaréniens sont une branche des Arabes, une branche des descendants d'Ismaël, qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui la Syrie moderne. Pour une raison ou une autre, le nom d'Agar leur est resté. C'est aussi ce que l'on constate dans l'histoire ultérieure. Ainsi, lorsque la Syrie était dans cette région, elle a constaté une tribu qu'elle a appelée du nom d'Agar, qui vivait dans cette région qui est aujourd'hui la Syrie. C'étaient les descendants d'Agar. Il y a donc un groupe d'Arabes qui portent le nom d'Agar et qui ont vécu dans cette région de la Syrie pendant une longue période. Ils étaient là à l'époque de Saül et aussi à l'époque de la Syrie, des centaines d'années plus tard. C'est de cette région du monde qu'il s'agit. C'est donc à cause de la mention des Hagaréniens dans le psaume 83 que nous nous attendons à ce que la Syrie s'allie à l'Allemagne. Et le psaume 83 a été une prophétie directrice pour une grande partie de ce que nous avons vu récemment au Proche-Orient. Si vous regardez le verset suivant, il est question de Gébal et de Tyr. Gébal et Tyr étaient deux villes phéniciennes. Gébal est mieux connu sous le nom de Byblos. Ces deux villes se trouvent dans le Liban moderne. C'est pourquoi M. Fleury a dit de s'attendre à une rupture entre le Liban et l'Iran et à ce que le pouvoir du Hezbollah au Liban soit brisé. C'est parce que ces nations s'aligneront sur l'Europe et l'Allemagne, et non sur l'Iran. Il en va de même pour les Philistins. Si vous regardez où les Philistins vivaient autrefois, c'est à Gaza. M. Fleury a dit qu'en fin de compte, Gaza se rangera du côté de cette puissance européenne. Nous voyons donc le psaume 83 se dérouler sous nos yeux. L'histoire nous a déjà donné des exemples de cette tendance. Lorsque l'Allemagne s'est impliquée davantage au Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale, elle est partie à la recherche de partenaires régionaux avec lesquels elle pourrait travailler. Elle s'est rapprochée de la Turquie, qui faisait partie de l'Alliance allemande lors de la Première Guerre mondiale, et c'était par l'intermédiaire de la Turquie que l'Allemagne a essayé de s'allier à d'autres États arabes. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Berlin a travaillé avec le Moufti de Jérusalem pour tenter de convaincre d'autres musulmans à lutter contre la Grande-Bretagne. Il y a donc des précédents historiques de ce genre de choses, bien que ces occurrences ne soient pas exactement des accomplissements de la prophétie du psaume 83. Ces deux passages, le psaume 83 et le chapitre 11 de Daniel, sont parfaitement en accord. Daniel 11 décrit l'attaque du roi du nord contre le roi du sud comme une tempête. Si l'on se penche sur la signification de ce mot hébreu, on constate qu'il signifie « tourbillon » et implique un élément de terreur et de férocité, ce qui montre à quel point cette attaque sera terrifiante. Mais aussi, tout comme un tourbillon tourne en ronde, il y a aussi un élément d'encerclement. C'est une attaque de tous les côtés. Sur la base de ce seul mot, vous pouvez comprendre que le roi du Nord a des alliés régionaux et maintient des bases dans ces régions afin de pouvoir attaquer l'islam radical de tous les côtés et éliminer ces groupes d'islam radical dans toutes les directions. Le psaume 83 nous en dit plus à ce sujet et sur la manière dont cela se passe, et précise quelles nations sont alliées. Ces deux prophéties ont été écrites à des centaines d'années d'intervalle, mais elles se rapportent parfaitement et nous donnent une image claire de ce qui se passe dans le temps de la fin au Proche-Orient. Il ne s'agit là que d'un bref résumé. Nous avons un livre gratuit, « Le Roi du Sud », qui vous fera découvrir cela plus en détail. C'est ainsi que vous pouvez vérifier la véracité de tout ce qui vient d'être dit. Ce livre est destiné, disons, à un débutant en prophétie biblique. Il ne faut pas être expert en études du Moyen-Orient ou de la Bible pour pouvoir comprendre notre livre, « Le Roi du Sud ». Il est facile à comprendre, vous aidera à comprendre toutes ces prévisions. Et ces prévisions changeront votre monde de manière spectaculaire. La Syrie s'éloigne de l'Iran et se rapproche de l'Europe, ce qui constitue une étape importante dans la prophétie biblique et ce sera une étape importante dans les actualités mondiales. Cela conduira l'Europe à s'impliquer davantage au Proche-Orient. Et comme M. Fleury l'a même indiqué dans son article au début de l'année, cela pourrait même jouer un rôle dans l'émergence d'un homme fort en Europe et en Allemagne, alors que l'Europe tente de gérer la menace d'islam radical, de la migration de masse, et alors qu'elle fait face à l'arrivée d'une nouvelle vague migratoire en provenance de la Syrie. Cela pourrait avoir une grande importance dans les élections allemandes. Le parti alternatif für Deutschland parle beaucoup de l'immigration en Allemagne, et si vous êtes à juste titre préoccupé par l'immigration en Allemagne, il n'y a pas beaucoup d'autres partis vers lesquels les gens peuvent se tourner. Cela pèsera donc lourdement sur les dirigeants allemands. Cette question pourrait-elle décider les élections? Pourrait-elle modifier les élections, peut-être en donnant à l'alternative für Deutschland un coup de pouce de 5, voire 10%? Si c'est le cas, cela rendra la formation de coalition beaucoup plus difficile, constituera une révolution beaucoup plus importante dans le monde politique allemand. Il y a donc une forte bonne raison à essayer d'endiguer ce qui se passe en Syrie et d'éviter que cela n'échappe à tout contrôle. La France, elle, a joué un rôle assez actif en essayant de s'impliquer au Liban. En tant qu'ancienne puissance coloniale, s'impliquera-t-elle davantage en Syrie également? Il y a beaucoup de façons dont cela pourrait changer votre monde. C'est pourquoi vous avez besoin de notre livre, « Le roi du Sud ». Il vous aidera à comprendre non seulement les actualités, mais surtout la Bible. Il donnera vie à ses prophéties bibliques. Et encore une fois, il y a tant d'avantages pratiques à faire cela. Cela renforce vraiment l'autorité de la Bible dans votre esprit. Cela prouve que la Bible est un livre puissant pour le moment présent qui vous annonce ce qui se passera dans le monde. Cela renforce l'importance de votre propre étude de la Bible. En lisant ce livre, vous pouvez découvrir la puissance de chaque parole de la Bible. Cela vous aidera à étudier de plus en plus en profondeur et à appliquer chaque mot à votre vie, à vos problèmes, à trouver des solutions. Je conclurai en lisant un autre passage de la même prophétie dans le chapitre 12 de Daniel. Au verset 2, on peut lire « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Dieu accorde une grande importance à ce message prophétique. Et à ceux qui le diffusent et qui amènent beaucoup de gens à la justice, Dieu dit qu'ils brilleront comme les étoiles pour les siècles des siècles. C'est une récompense époustouflante. Que signifie briller comme les étoiles? D'autres prophéties bibliques parlent de la potentialité de l'homme à naître dans la famille de Dieu, à devenir un être divin, avec un visage qui brille comme les étoiles. Comme nous pouvons comprendre ici, Dieu fait un lien direct entre ce message de l'Évangile, entre la naissance de l'humanité dans la famille de Dieu et ce passage de la prophétie biblique. En fin de compte, c'est là que tout cela nous mène. Et nous serons en mesure de comprendre cela si nous approfondissons vraiment notre étude de la prophétie biblique. Nous comprendrons alors le véritable Évangile, la bonne nouvelle dont il est question de la Bible. L'Évangile de la Bible est totalement différent de ce qu'on appelle l'Évangile dans les églises de ce monde aujourd'hui. L'étude des prophéties bibliques nous fait découvrir l'espoir réel pour le monde et l'espoir merveilleux pour chaque individu. C'est à peu près la fin de notre émission. Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que cette analyse en profondeur vous a aidé à comprendre ces actualités d'une importance capitale. Vous pouvez vous procurer ce livre, « Le roi du Sud », que je viens de mentionner, sur notre site web latrompette.fr. Cliquez sur l'onglet « Littérature », puis sur « Livres et brochures » et vous serez en mesure de passer la commande en ligne de votre propre exemplaire imprimé. C'est tout à fait gratuit. Il vous suffit de l'ajouter au panier. Il n'y a pas de frais et pas d'engagement. On ne vous demandera pas de saisir une carte de crédit. Vous pouvez simplement l'ajouter à votre panier, le commander, et nous sommes en mesure d'expédier nos livres partout dans le monde. Il n'y a pas de frais d'expédition, tout est gratuit. Il n'y a pas non plus de publicité. Nous n'allons pas frapper à votre porte pour vous demander d'assister à l'Église, ni vous appeler pour vous demander ce que vous en pensez. La seule communication que nous faisons, c'est si vous la sollicitez. Si vous recevez notre revue, La Trompette, nous vous écrirons lorsque votre abonnement doit être renouvelé. Nous voulons nous assurer que vous l'appréciez. C'est la seule communication que nous faisons. Si vous avez des questions, des retours ou des difficultés à obtenir nos contenus, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lettre@latrompette.fr. Merci beaucoup à Mihailo Zekic pour avoir été avec nous. Et merci à l'équipe de production. Nous serons de retour bientôt. D'ici là, continuez à surveiller votre monde.